Vous l'avez sans doute remarqué, en période de canicule, mieux vaut être à la campagne. En ville, on étouffe. Et pour cause, les zones urbaines se réchauffent plus vite et se refroidissent moins la nuit que le reste du territoire. Ce phénomène, temporaire et localisé, est appelé l'îlot de chaleur urbain, ICU. Pour vous donner une idée, on a déjà mesuré une différence de 10 degrés entre Paris et Melun, séparés pourtant de seulement 50 km. À Toulouse, en 2022, 6 degrés d'écart ont été constatés entre le centre-ville et la proche périphérie rurale. C'est que nos activités produisent de la chaleur, que les matériaux de construction la retiennent, que le peu de végétation et le manque de sol perméable fait obstacle au rafraîchissement de l'atmosphère, de même que la densité des immeubles empêche l'air de ventiler tout ça. Résultat, on étouffe. Et comme l'écrivain Julien Gracq, on se met à chercher de placides enclaves chlorophylliennes cernées de nos jours par la ronde des moteurs. Et à voir dans ces arches de Noé végétales autant de modestes portes-trésors battues de partout, malmenées, comprimées par la marée de l'urbanisation, mais dont la déflagration végétale explosive, un jour, réensemencera les cités abandonnées. Bon, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance à planifier la végétalisation des villes. Car on sait que ces aménagements, trames vertes, terrasses ou murs végétalisés, plantations en pleine terre, parcs, permettent de refroidir les zones concernées et leurs alentours de quelques degrés. Bien entendu, cela n'est pas suffisant. Il faudrait aussi revoir le bâti, nos manières de nous déplacer, de consommer, nos habitudes, quoi. En mai 2023, la municipalité a lancé son plan Toulouse plus fraîche pour 2025-2030. Ombrières, stores, végétaux dans les cours d'école et dans les EHPAD, création d'oasis et d'espaces fraîcheurs, plantation d'arbres, débitumisation, etc., etc. C'est officiel, les plantes, c'est l'avenir. Mais pas n'importe lesquelles. C'est vrai que loin de la déflagration végétale rêvée par Julien Gracq, le spectacle estival actuel est plutôt celui de plantes grillées entre deux trottoirs. Cela dit, si on prêtait attention aux anfractuosités des murs et aux toitures, on se rendrait compte que pour certaines espèces héliophiles, qui aiment le soleil, et xérophiles, qui peuvent vivre dans des milieux secs, les îlots de chaleur ne sont pas une menace. Bien souvent, celles qui se dressent fièrement vers le soleil, en haut des toits, sont des plantes grasses ou succulentes, ce qui n'a rien à voir avec le goût ou la graisse, mais avec le latin, succulentus, pleine de suc. Leur sève épaisse et gluante qui circule dans les tissus et s'échauffe peu en cas de chaleur. En plus, elles sont capables de stocker de l'eau dans leurs feuilles, tiges ou racines. Le nombril de Vénus, dont on a parlé dans la pastille Herbe folle, est l'une d'entre elles. Croquez une de ses feuilles et vous verrez qu'elles sont gorgées d'eau. La famille dont elle fait partie et qui regroupe un grand nombre de plantes grasses s'appelle les crassulacées. Rien à voir avec l'hygiène douteuse, non. C'est encore une histoire de latin. Crassus, épais, qualificatif qui va très bien à leurs feuilles qui sont rarement plates et fines. Levez donc un peu les yeux vers le toit en face de vous. C'est haut, mais si vous avez une bonne vue ou des jumelles, vous pourrez apercevoir, et ce en toute saison, des tas de petits boudins, parfois surmontés d'une tige ou d'une fleur blanche. Laissez-moi vous présenter l'orpin blanc, Sedum album. Oui, parce qu'orpin, c'est un terme vernaculaire, pas savant, qui désigne principalement des plantes du genre sédum, mais pas que. Regardez un peu ce spécimen. 10-15 cm, des feuilles charnues de 1 à 1,5 cm, presque cylindriques, des petits boudins, et qui se tiennent non loin les unes des autres le long de la tige. Leur forme leur vaut au Portugal le nom de arustos telhados, riz des toits. Ces drôles de feuilles sont rouges quand elles sont exposées à la pleine lumière, surtout en hiver, et se teintent de vert tendre lorsque leur croissance reprend au printemps. Elles s'étalent un peu au sol et vivent en colonie durant plusieurs années. Ce sont donc des plantes dites « vivaces » dans le jargon botanique. Mais peut-être avez-vous plutôt en face de vous « Sedum sediforme », l'orpin élevé ou orpin de Nice, qui, quand il est en fleur, peut mesurer jusque 30 cm, et arborer une inflorescence jaune pâle divisée en étoiles. Leurs prédispositions de résistance à la chaleur sont remarquables et ne tiennent pas seulement à leur capacité à retenir l'eau dans leurs tissus. Pour comprendre en quoi les crassulacées sont si singulières, il faut revenir un instant au fonctionnement des plantes. Pour vivre, une plante a besoin d'eau de lumière, d'air et d'une température adéquate. L'eau, elle l'absorbe principalement par les racines et la fait remonter jusqu'aux feuilles via sa tige grâce à sa transpiration. C'est en effet parce que l'eau s'évapore de ses feuilles, parce qu'elle transpire, que s'exerce une tension qui va permettre à l'eau contenue dans les racines de monter. Les plantes régulent leur transpiration. En fonction de la température, de l'humidité du sol et de l'air ou du rayonnement du soleil, et pour ne pas risquer de se déshydrater, elles ouvrent plus ou moins ce qu'on appelle des stomates, de petites fenêtres situées sur les feuilles, qui une fois fermées rendent celles-ci imperméables. Reste la lumière. Ingrédient essentiel pour que nos végétaux puissent pratiquer la photosynthèse, le processus par lequel ils transforment le CO2 présent dans l'air en sucre dont ils ont besoin pour leur croissance, et par là même à produire de l'oxygène. Il s'agit d'une opération complexe qui se fait dans les tissus verts dits chlorophylliens, car ils contiennent des pigments appelés chlorophylles, largement impliqués dans l'affaire. C'est là, dans les feuilles principalement, que se trouvent les cellules expertes dans l'art de la photosynthèse. Les plantes transforment l'énergie solaire en énergie chimique, dans le but d'utiliser cette dernière pour faire du sucre avec le CO2 qu'elles ont absorbé par leurs stomates, les petites fenêtres des feuilles. Transpiration et photosynthèse sont les deux activités quotidiennes de nos végétaux et plus de 90% d'entre eux s'y adonnent de jour pour profiter pleinement de la lumière. Seulement voilà, lorsqu'il fait très chaud et sec, que les sols n'ont plus assez d'eau à fournir, les plantes, qui ne peuvent pas courir se mettre à l'ombre les pieds dans la rivière, vont avoir tendance à fermer les fenêtres pour empêcher l'eau de s'évaporer totalement, ce qui les conduirait à mourir desséchées. Si elles jouent cette carte, elles ne peuvent plus absorber le CO2 contenu dans l'air pour fabriquer du sucre dont elles ont besoin, ce qui peut être une solution à court terme, mais devient dangereux si ça se prolonge. En gros, si les conditions de sécheresse perdurent, elles ont le choix entre mourir de soif et mourir de faim. C'est comme ça que de nombreuses plantes finissent grillées. Mais pas toutes. Les crassulacées ont un petit truc génétiquement inscrit qui fait qu'elles sont adaptées à des milieux secs et chauds, comme les toits du sud-ouest par exemple. Elles peuvent, si les conditions deviennent extrêmes, pratiquer une photosynthèse singulière qui fait d'ailleurs référence à leur nom, CAM. Métabolisme acide crassulacéen. Car si des végétaux issus d'autres familles, comme celle des cactus par exemple, pratiquent aussi cette photosynthèse, c'est bien chez les crassulacées qu'on l'a observé pour la première fois. Je ne rentrerai pas dans les détails très techniques des cellules et des protéines à l'œuvre, et m'en tiendrai à vous dire que leur truc, c'est d'ouvrir leur stomate la nuit et non le jour, pour pouvoir absorber le CO2 et se libérer de l'oxygène qu'elles ont produit, tout en limitant l'évaporation. C'est bien gentil, me direz-vous, mais sans énergie solaire, pas de photosynthèse. Et vous aurez raison. Mais les plantes ont réponse à tout. En gros, elles stockent le CO2 capté durant la nuit en attendant que l'énergie solaire soit disponible pour enclencher le processus de transformation stomate fermé. L'oxygène est lui aussi, en quelque sorte, stocké en attendant d'être libéré la nuit venue. C'est plutôt malin, et on se demande bien pourquoi toutes les plantes ne s'y mettent pas. Eh bien d'abord parce que j'ai fort simplifié, et que ce qui n'apparaît pas, c'est toute la machinerie qu'il faut mettre en place et le coût énergétique pour la plante, sans que la production de sucre ne soit pour autant colossale. Dans des milieux, disons, non arides, le rapport énergie-résultat est meilleur avec la photosynthèse, disons, classique. Notez aussi que dans d'autres contextes, aquatiques notamment, certaines plantes pratiquent la photosynthèse CAM sur la partie qui se trouve sous l'eau et la photosynthèse classique, quand une partie de la plante se trouve émergée. Deux types de photosynthèse à l'œuvre en même temps chez une seule plante. Vous imaginez bien que la découverte de ces merveilles d'adaptation a intéressé l'industrie agroalimentaire. Des recherches ont notamment été entamées dans les années 2000 sur le riz pour trafiquer ces gènes et le rendre adaptable aux conditions d'aridité croissante de certains milieux. Affaire à suivre. En attendant, d'autres corps de métier tirent des bénéfices des qualités des crassulacées et de nos orpins en particulier. Les architectes, ingénieurs et techniciens du bâti. Ce sont en effet des plantes que l'on utilise pour végétaliser les toits. Résistantes aux chaleurs, elles se contentent de sols pauvres en nutriments et ne demandent pas d'entretien, tandis qu'elles renforcent l'isolation thermique des bâtiments et participent, à leur hauteur, à rafraîchir les villes. Dans une étude parue en 2011, des chercheurs de l'université de Tufts au Massachusetts, racontent leur expérience menée sur les toits de la bibliothèque universitaire. Celle-ci montre que les orpins, le blanc en l'occurrence, quand ils sont associés à d'autres espèces moins résistantes aux chaleurs et à la sécheresse, mais qui n'entrent pas en compétition avec eux pour la lumière, ici l'agastache et l'asclepia, vont aider leurs voisines à garder leurs feuilles vertes plus longtemps. Et ce, parce qu'ils couvrent le sol, mais aussi parce qu'ils retiennent l'eau. C'est l'effet cool de l'orpin. L'expérience a été élargie à d'autres sédums, donnant des résultats similaires. Mais on n'a pas attendu que les villes soient des fours pour s'intéresser aux orpins. Un des surnoms du blanc est Trip Madame ou Trick Madame. Les deux versions se discutent. Trip viendrait de triper, sauter, en référence à la réaction que produirait son astringence. Quant à Trick, on raconte que ses propriétés cicatrisantes et adoucissantes lui valaient d'être le remède des femmes ayant subi les coups de leur mari. Ce qui fait écho au nom de ce genre, sedum, du latin sedare, apaiser. À moins que ça ne vienne de sédérer, s'asseoir, en référence à leur tendance à se tenir assise sur les pierres. Rien n'est tranché encore. On connaît d'autres usages des orpins, en cuisine notamment, où l'orpin élevé est dégusté en salade ou au vinaigre. Mais bon, on le dit plutôt insipide, voire acre. Alors que bizarrement, l'orpin acre, ou poivre des murailles, présent à Toulouse lui aussi, semble plus savoureux et relever le goût des plats. Ses feuilles, diurétiques et purgatives, sont toutes petites et imbriquées le long d'une courte tige de 2 à 10 cm, ce qui fait qu'on le remarque surtout en juin, quand il se couvre de ses belles fleurs jaunes. Et devinez quoi ? Ce sont aux fleurs de cette espèce que l'on doit le nom d'orpin, couleur d'or. Il ne vous reste plus qu'à lever les yeux sur les toits, à scruter les anfractuosités du bâti pour les observer à travers la ville. Qui sait ? Peut-être même les verrez-vous habités de leur cortège de butineurs.